France Info. France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est après avoir travaillé comme des fous l'actualité de leur bronzage en terrasse et qu'ils auraient adoré parler de vin rosé qu'ils se sont présentés. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent le communicant et prof à Sciences Po, Guillaume Jubin, bonsoir.
Bonsoir.
Également l'avocate Caroline Mécari, bonsoir.
Bonsoir.
Stéphane Vernet, bonsoir, de West France, et François Orcival, bonsoir.
Bonsoir.
De Valeurs Actuelles. Et ce soir, Macron sur le chemin du Saint-Siège. On parlera aussi terrorisme d'extrême droite, un peu d'autolib. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. On n'a rien décidé et c'est plutôt satisfaisant. Voilà, telle est la conclusion du mini-sommet qui s'est tenu hier à Bruxelles sur la question migratoire en présence de 16 pays européens. Alors attention, hein, parce qu'en langage européen, on n'a rien décidé. C'est déjà bien, hein. Ça veut dire que 16 pays se sont accordés sur le terme « on n'a rien décidé ». C'est déjà un grand pas. Si chacun est ressorti en parlant de dialogue positif, l'attitude de l'Europe vis-à-vis des migrants n'avance pas, comme un terrible retour à la réalité après l'Aquarius. C'est désormais le navire de l'ONG allemande Lifeline, avec 239 personnes à son bord, qui se voit refuser ses demandes d'accostage. Il y a un mini-sommet, donc, hier, censé préparer la rencontre européenne de vendredi, où cette fois-ci, les pays les plus durs concernant la politique d'accueil seront présents, comme la Hongrie. Une question de l'accueil qui a montrent les tensions, notamment entre la France et l'Italie, puisque le mouvement 5 étoiles et la Ligue d'extrême droite, vous savez, au pouvoir en ce moment, bien dénoncent l'attitude d'Emmanuel Macron en ces termes. Si l'arrogance française pense transformer l'Italie en camp de réfugiés pour toute l'Europe, peut-être en versant quelques euros de pourboire, elle se fourvoie complètement. Donc désormais, c'est un combat entre l'Italie et la France. Et voici comment Emmanuel Macron leur a répondu. C'était hier à Bruxelles.
Sur ce sujet, la France n'a d'ailleurs de leçons à recevoir de personne. Nous sommes le deuxième pays d'accueil des demandeurs d'asile cette année. Et c'est dans cet esprit, pour ma part, que je veux avancer avec tous les collègues qui sont prêts, en responsabilité, à proposer une solution qui respecte notre histoire, nos droits, et nous permette de progresser.
Voilà, Emmanuel Macron, hier, au sommet de Bruxelles. Alors, Stéphane Vernet, on pensait, finalement, la hache de guerre enterrée entre la France et l'Italie, notamment avec Giuseppe Conte qui était venu déjeuner avec Emmanuel Macron la semaine dernière. On se rend compte qu'en fait, c'est toujours aussi dur entre les deux pays.
Oui, c'est un sujet chaud, et ça va rester chaud, et pas seulement entre les deux pays, c'est aussi à l'échelle de toute l'Europe, à l'échelle des 28, j'ai envie de vous dire, les 27 plus la Grande-Bretagne, puisqu'ils ne sortiront que l'année prochaine. On n'arrête pas de dire qu'en fait, l'Europe ne fait rien ou pas suffisamment en matière de politique migratoire. Moi, j'insiste, je l'ai déjà dit, je le redis, c'est lié aussi au fait que les États membres eux-mêmes, c'est-à-dire nous, dont la France, l'Italie, l'Autriche, l'Allemagne, tout ce que vous voulez, on n'est pas capable de se mettre d'accord pour céder cette politique-là. C'est-à-dire que les États ont refusé de transférer cette compétence-là à l'Europe en disant non, le contrôle de qui on accueille, dans quelles conditions, sur quels critères, c'est nous. Et c'est la crise à laquelle on assiste aujourd'hui, elle est liée d'abord à ça. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, à 28 ou 27 plus 1, ouais, ils n'arriveront pas à se mettre d'accord sur une politique commune. Donc ce que propose aussi Macron, c'est de dire, puisqu'on n'arrive pas à se mettre d'accord à 28, il faut qu'on puisse avancer par petits groupes.
C'est ça. Alors ça, il le fait en effet sur différents niveaux. Mais Caroline Mécari, est-ce que ce sommet a servi à quelque chose? Parce qu'ils ont beau dire c'était positif, il n'y a même pas une déclaration quand on est sorti.
Écoutez, moi je pense que ça donne vraiment une image de l'Union européenne et de sa capacité politique à résoudre une crise politique absolument désastreuse. Donc ça n'est vraiment pas positif. Je voudrais juste apporter un complément sur ce que vous venez d'évoquer. En fait, je pense qu'il faut d'abord distinguer deux choses. La question de la manière dont l'Union européenne, c'est-à-dire les 27 pays membres, enfin 28, bientôt 27, gère individuellement, vous avez raison, la question des flux migratoires, c'est-à-dire des étrangers qui rentrent sur leur territoire, de la question des réfugiés politiques qui sont soumis à la Convention de Genève, qui sont soumis au règlement de Dublin, ceux qu'on appelle les fameux Dublinés, c'est-à-dire, pour que nos auditeurs comprennent, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne demande l'asile politique dans un pays, par exemple en Italie, et qu'elle se rend ensuite éventuellement en France ou en Allemagne, eh bien, le pays où elle s'est rendue dans un deuxième temps doit la renvoyer au premier pays d'accueil. Si on ne remet pas ça à plat, parce que c'est ça la problématique. Pourquoi ces gens arrivent chez nous aujourd'hui ? Ils viennent du Moyen-Orient, ils viennent du sud de la Méditerranée, parce que ce sont des gens qui fuient des territoires de guerre. Donc, ils sont potentiellement susceptibles d'être protégés par la Convention de Genève sur le droit d'asile et avec le statut de réfugié.
C'est ça. Alors, François Lorcival, ce sommet, il a servi à quelque chose hier ? Parce qu'on imagine, s'il n'y a aucune déclaration quand il est sorti, vendredi prochain, avec la présence donc de ce groupe de Visegrad, c'est-à-dire la Hongrie, la Slovaquie, la Pologne, la République tchèque, qui sont hostiles à l'accueil de migrants, on se demande bien comment ça peut avancer.
Ah, vous avez tout à fait raison, et ça n'avancera pas. Il y a maintenant un certain nombre d'Europe, effectivement.
Ah, vous parlez d'Europe différente.
L'Europe différente. L'Europe du mini-sommet de Bruxelles, c'est une Europe à 16. Vous avez également, qui s'est réunie, une Europe des agriculteurs, en quelque sorte, représentée par notre ministre de l'Agriculture, c'est une Europe à 20. Vous avez l'Europe de l'euro, vous avez l'Europe de Schengen. Toutes ces Europes, en fait, tournent les unes à côté des autres, et on pourrait, avec Schengen, avoir une politique stratégique à l'égard des migrants qui traversent la Méditerranée. À ce propos, d'ailleurs, ils traversent la Méditerranée, ils vont ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Égypte, qui sont pourtant des ports beaucoup plus proches que ne le sont ceux d'Italie, de Malte.
Mais pourquoi ils iraient en Algérie, en Tunisie ?
Pourquoi pensez-vous que l'Algérie ne soit pas un pays accueillant, respectueux des droits de l'homme, et comme la Tunisie ?
Ah, mais socialement, c'est pas la même chose. On sait bien, vous savez bien. Enfin, voilà ce qu'il cherche, François Lorcival.
Je sais très bien, et c'est la raison pour laquelle je sais très bien aussi que le trafic, qui est appelé d'ailleurs par des mafias, comme des mafias par les Italiens aujourd'hui, eh bien, ces trafics vont se perpétuer tant que nous n'aurons pas de politique ni de stratégie.
Alors, on va continuer à en parler dans un instant. L'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
Un laboratoire clandestin permettant de fabriquer des explosifs a été retrouvé au domicile de l'une des 10 personnes d'ultra-droite interpellées ce week-end. 10 personnes arrêtées dans plusieurs régions. Leur garde à vue est d'ailleurs prolongée ce soir. Les suspects voulaient cibler des imams ou encore des mosquées en France. L'Union européenne, à son tour, critique les conditions des élections en Turquie et surtout une campagne électorale qui n'a pas été équitable entre les candidats. Recep Tayyip Erdogan a été réélu hier dès le premier tour avec 53% des voix. Il entame un nouveau mandat jusqu'en 2023. La reprise des exportations de bœuf français vers la Chine pourrait reprendre dès septembre. Édouard Philippe signe aujourd'hui avec Pékin la levée de l'embargo en place depuis 2001. 2001, c'était alors la crise de la vache folle en France. Très positif, le bilan des classes de CP à 12 élèves dans les quartiers défavorisés. Le bilan est dressé par les enseignants et le syndicat FSU. Un an après la mise en application de cette promesse du candidat Macron, elle concerne 3700 classes de CP, des personnes qui regrettent toutefois que cela se fasse au détriment d'autres classes et d'autres écoles. Et puis deux matchs depuis 10 minutes au Mondial de football avec la confrontation entre l'Iran et le Portugal et l'Espagne face au Maroc. Avant cela, l'Uruguay finit en tête du groupe A après sa victoire 3-0 sur la Russie. But dans les arrêts de jeu et l'Arabie Saoudite s'impose 2-1 sur l'Égypte de Salah.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info hier à Bruxelles se tenait donc un mini sommet de 16 pays pour discuter de cette politique d'accueil. Les migrants toujours au cœur de toutes les discussions en Europe. Ça sera le cas vendredi prochain pour un sommet de l'Union européenne. Alors Guillaume Jubin, il y a une chose aussi qu'on a un peu de mal à comprendre de temps en temps avec Emmanuel Macron. Il a critiqué certains pays qui en font une affaire de politique intérieure des migrants. Mais alors est-ce que c'est pas un peu le cas aussi de la France qui depuis le début de cette affaire depuis 2015 dit on n'en accueille pas trop parce que ça peut faire monter aussi les extrêmes.
Alors, le sujet, c'est que l'Europe est toujours le bouc émissaire des incapacités nationales. Donc, effectivement, l'Europe a toujours bon dos sur ce type de sujet. En l'occurrence, c'est vrai que les sujets des migrations doivent se résoudre au niveau européen. Et d'ailleurs, l'Union européenne a fait pas mal ces dernières années sur les politiques migratoires avec les pays de la Méditerranée. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, c'est vrai que le paradoxe, c'est de voir aujourd'hui que l'Europe est embourbée sans savoir prendre position sur le sujet des migrants. Ensuite, c'est vrai qu'aussi, aujourd'hui, l'Europe paie l'incapacité aussi de beaucoup de gouvernements de ne pas savoir prendre position sur ce sujet dans les différents États. On voit bien en France, finalement, on reporte le sujet au niveau européen, alors qu'effectivement, à un moment donné, il va falloir avoir une position française et une politique française sur le sujet, comme ça doit être le cas pour beaucoup de pays en Europe. Et l'Allemagne, d'ailleurs, se retrouve un peu dans le même dilemme, d'une certaine manière.
Oui, Caroline Mécari, c'est toujours cet argument, même avait dit, par exemple, Gérard Collomb, il avait dit, plus de migrants, c'est regarder ce qui arrive à l'Allemagne avec l'AFD, par exemple, qui est le parti d'extrême droite, qui avait fait son entrée fracassante à l'automne dernier.
Oui, et c'est ce qui ensuite permet à Gérard Collomb de justifier, par exemple, le vote de la loi Asile-Immigration, qui est une loi qui, notamment, permet l'enfermement des mineurs, alors que les mineurs ne devraient jamais être enfermés, parce qu'ils ne sont pas considérés comme étant des étrangers. Donc il y a vraiment, vous avez raison de souligner cette espèce d'instrumentalisation, en effet, de l'Union européenne pour justifier des politiques de plus en plus drastiques au niveau national. Et si Emmanuel Macron nous dit que la France n'a pas de leçons à recevoir, je pense que la France n'est plus à la hauteur en réalité de ce qu'a été, qu'elle a été par rapport à sa capacité d'accueillir des réfugiés politiques.
Quand
des réfugiés
là,
politiques.
Maintenant, elle
l'a été.
Oui, elle l'a été au sortir de la guerre. Elle l'a été. Donc, on n'est pas à la hauteur réellement de ce qu'on devrait faire. C'est-à-dire que on est un pays de 68 millions d'habitants et on n'est pas capable d'intégrer 15 000, 20 000 réfugiés politiques. C'est juste pas possible.
Pourquoi non?
Non, parce que les 15 000 ou 16 000, si c'était par an.
Mais c'est pas
ce chiffre-là. Vous le savez très bien.
Je vous parle des réfugiés politiques. Je vous parle pas de ce que vous appelez l'immigration économique, qui est autre chose. Je parle de gens qui ont le statut de réfugiés politiques.
Je suis comme vous. Je me mets sur le même terrain, c'est-à-dire les réfugiés politiques, c'est-à-dire les demandeurs de droit d'asile.
Non, un demandeur de droit d'asile n'est pas un réfugié politique. Il est peut-être demandeur du droit d'asile, mais il n'a pas le statut. Donc je vous parle de gens qui ont le statut de réfugiés politiques.
L'asile. Oui. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, très clairement, il est dans la Constitution, article 53, alinéa 1.
Et les conventions de Genève.
Et les conventions de Genève sur les réfugiés et les apatrides, absolument, 1951. Mais une fois qu'on a dit ça, Emmanuel Macron a raison. En nombre de demandeurs de droit d'asile, la France est en effet immédiatement derrière l'Allemagne. Mais ça n'est pas pour autant la France ne soit pas souveraine, quand vous dites une position française, mais oui, la position française, la France a le droit d'accorder ou de ne pas accorder, selon un certain nombre de critères, le droit d'asile à qui elle veut.
Ouais. Alors Stéphane Garnet,
qu'il y a une différence entre les 28, c'est qu'en fait chaque État accorde le droit d'asile au demandeur, le statut de réfugié politique, selon des critères qui lui sont propres et en fonction.
En principe, non.
En principe, non. Dans la réalité, vous êtes d'accord avec moi pour dire que
la
réalité, ça se passe pas comme ça.
Je suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire que globalement, il y a une espèce d'homogénéité.
De principe, mais dans les faits, c'est pas. Non, mais
de combien de milliers de personnes on parle, enfin? L'Europe, c'est une région, enfin, c'est un territoire où il y a plus de 500 millions d'habitants.
Non, mais je suis d'accord avec vous, mais on parle, en fait, on calcule pas sur les mêmes bases. Il y a les migrants, l'enveloppe globale, les gens qui viennent. Dans les migrants, il y a ceux qui demandent l'asile, ceux qui le demandent pas. Et dans ceux qui demandent l'asile, il y a ceux qui l'obtiennent et qui ont un statut donc de réfugiés et qui sont protégés au nom de nos valeurs, de notre constitution, de la Convention de Genève. Mais il y a aussi tous ceux qui ne le sont pas. Et la problématique, c'est qu'est-ce qu'il advient d'un certain nombre de migrants qui rentrent et qui n'obtiennent pas le statut. Et aujourd'hui, on ne les renvoie pas tous, on sait pas tous les renvoyer, pour plein de raisons différentes. Et effectivement, au sein de l'Europe, on se refile la patate chaude avec les accords de Dublin.
C'était les fameux, vous savez, quand on a fait une politique de quotas au départ, on a imaginé, on s'est dit, la France accueille très peu. Et c'est vrai qu'à un moment, on a beaucoup accueilli, notamment, on prend un exemple, vous parliez de réfugiés politiques tout à l'heure, c'était le cas à la fin des années 70 avec des boat people. Il y a eu beaucoup, quand même.
Oui, c'est vrai, très intéressant.
Et donc, c'était bien les réfugiés politiques.
nous avons accueilli des Polonais, des Italiens, des Espagnols, des Asiatiques.
Mais là on n'est pas sur des statuts de réfugiés. Là, on n'est pas sur des réfugiés.
Et nous avons aussi accueilli des musulmans d'Afrique du Nord.
Non, mais on a accueilli des Tunisiens, on a accueilli des Algériens, peut-être qu'ils sont de confession musulmane. Pourquoi vous les désignez par leur confession ? Moi, la seule chose que je voudrais dire, et je voudrais quand même vous le rappeler, c'est que le solde migratoire en France, depuis 30 ans, il n'a pas bougé. Il est égal à zéro.
Donc, il n'y a aucun problème. De quoi parlons-nous ? S'il n'y a pas de problème, on n'en parle pas.
Non, mais attendez, non, c'est pas comme ça que ça marche. Plus vous parlez d'une chose, plus vous faites de la propagande, plus vous arrêtez de vous ne cessez pas de matraquer les gens avec les réfugiés, les bateaux, les réfugiés, vous faites peur aux gens.
Mais moi,
c'est
ça, personne. Alors, ce n'est pas moi qui invente l'Aquarius. Ce n'est pas moi qui invente
le live. Mais l'Aquarius,
c'est 630 personnes.
Je voudrais juste qu'on écoute aussi Guillaume Jubin. Comme vous voyez, justement, ça, on sent quand même tout de même au sein du gouvernement qu'il y a, voilà, il y a un petit malaise autour de cette question, véritablement.
C'est un sujet de société. Donc, tant qu'on n'en parle pas, évidemment, ça devient un sujet qui, comme on voit l'exemple que vous donnez là, évidemment, vous en parlez et vous avez un débat très vif sur le sujet, on peut imaginer qu'il est le même dans la nation française. Donc,
est-ce que c'est aussi compliqué pour Emmanuel Macron par rapport à sa vision de l'Europe qu'il avait avant ? D'un coup, ce sujet s'invite pour lui presque, voilà.
C'est un sujet effectivement européen, mais qui doit, à un moment donné, qui pose quand même des questions sur ce qu'on veut, en tout cas pour notre pays. Et donc, si ce sujet n'est pas adressé, comme on dit aujourd'hui, il posera un problème politique à un moment donné. On voit bien, vous en êtes l'exemple, vous êtes en train de débattre de ce sujet-là. Et c'est un sujet politique français. Donc il faut en parler, il faut prendre une position.
Il est européen.
Chaque nation, mais chaque pays a une position à prendre et c'est une position politique.
Bon, alors moi, je vais juste vous dire quelque chose, la chose suivante. Caroline. C'est-à-dire que depuis 1945, ce qu'on appelle le code de l'entrée et du séjour des étrangers sur le territoire français, aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, a dû être modifié une trentaine de fois. Aujourd'hui, avec la loi Asile-Immigration, on met en place la possibilité de retenir des étrangers en situation irrégulière pendant une durée de 90 jours. Avant, c'était 3 jours. C'est passé à 10, c'est passé à 45. On arrive à 90 jours. Alors que l'on sait qu'un étranger qui est en situation irrégulière, il va être présenté à son consulat dans les 5 jours ou dans les 10 jours maximum. Et s'il n'a pas de laissez-passer par le consulat, il ne sera jamais renvoyé. Donc on va garder enfermés des gens pendant 90 jours pour rien. Ça ne change rien.
Non, alors écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en tout cas sur ce débat dans quelques jours. On y reviendra sûrement en fin de semaine parce que là, il faut qu'on file aussi à Moscou. Vous savez, l'actualité est un train qui file droit dans la nuit pour rejoindre Jacques Vendroux. Bonsoir Jacques Vendroux et vous suivez la Coupe du Monde pour nous. Et justement, bonsoir, il y a déjà un but du côté du Maroc, je crois.
Oui, bonsoir à tous. Et pour le moment, eh bien, nous assistons à une surprise, c'est-à-dire l'équipe du Maroc qui est de toute façon, quoi qu'il arrive, éliminée de la Coupe du Monde, mène 1-0 devant l'Espagne. Donc le classement pour le moment, après exactement 20 minutes de jeu sur les deux rencontres. Premier, le Portugal, 5 points. Deuxième, l'Espagne, 4 points. Pour le moment, le Portugal et l'Espagne, eh bien, qualifiés.
Merci beaucoup, Jacques Vendroux. On aura l'occasion de vous retrouver, bien sûr, au cours de l'émission. L'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et Matteo Salvini maintient sa ligne dure. Le Lifeline et ses 230 migrants n'iront pas en Italie. Au passage, le ministre de l'Intérieur lance une nouvelle pique à la France qui défend que c'est bien à l'Italie de faire ce geste. Avant cela, ce ministre italien déclarait depuis Tripoli et qu'il restait favorable à des centres d'accueil au sud de la Libye. La mesure permettrait, selon lui, de bloquer la migration. Une enquête préliminaire autour de la campagne d'Emmanuel Macron, notamment pour détournement de fonds publics et financement irrégulier d'une campagne électorale. Le parquet de Lyon soupçonne Gérard Collomb, à l'époque maire de Lyon et président de la métropole lyonnaise, d'avoir accordé des avantages au camp Macron pendant cette campagne présidentielle. Elles s'appelleront les Assises territoriales de l'islam de France, une grande concertation en vue de réformer l'organisation et le financement de l'islam dans tout le pays. Ces discussions auront lieu dans chaque département d'ici le 15 septembre. Une fusillade à Montpellier fait 4 blessés, dont 2 graves. Pour l'un d'entre eux, le pronostic vital est engagé. Selon France Bleu Hérault, les faits se sont produits vers 13h dans le quartier de la Paillade. Il s'agirait d'un règlement de compte entre deux bandes rivales sur fond de trafic de drogue. Et puis, il est désormais interdit de fumer dans les parcs de Strasbourg. Pour la santé et pour la propreté des lieux, les policiers municipaux pourront dès l'année prochaine dresser des contraventions qui pourraient atteindre les 68 euros.
France Info. 20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Et juste avant de reprendre avec passion nos débats, il y a une autre passion, parce que ça se passe justement entre l'Espagne et le Maroc. Je crois qu'il y a un autre but, Jacques Vendroux, c'est ça, mais espagnol cette fois-ci.
Exactement. Alors, Iran-Portugal, 0-0, ça ne change pas. Maroc-Espagne, un partout, les Marocains ont ouvert le score. Les Espagnols viennent d'égaliser. Donc, le classement et les matchs qualificatifs pour les huitièmes de finale. Pour le moment, seraient qualifiés premier, Portugal, deuxième, l'Espagne.
Merci beaucoup Jacques Vendroux, donc on vous retrouve dans une minute, hein. Je pense que c'est comme ça que ça se passe maintenant, il y a un but par minute. Allez, tout à l'heure on parlait de fractures, hein, que certains tentent d'exploiter, comme ce groupe baptisé AFO, Action des Forces Opérationnelles, dont 10 personnes ont été interpellées pendant le week-end car elles s'apprêtaient à commettre un attentat ciblant des musulmans, parmi eux d'anciens gendarmes et policiers. Des arrestations dans le milieu dit de l'ultra-droite, ce n'est pas une première, hein, puisqu'un coup de filet avait permis l'arrestation d'une dizaine de personnes appartenant à cette mouvance. Et attention aux amalgames, selon la présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen.
Non, mais attention à ces amalgames, monsieur Apathy, parce que là, vous mettez en cause des gens sans avoir le moindre début de commencement de preuve de ce que vous pouvez dire. Vous êtes en train de suggérer qu'il y aurait un lien entre ces gens,
non,
dont
non,
on ne sait pas qui ils sont, et des gens qui sont des militants identitaires. Les militants identitaires ne font pas partie du Rassemblement national, et ils peuvent d'ailleurs le rejoindre. Ça
mais
a été le cas, par exemple,
passé,
de monsieur Vardon, mais ils n'ont jamais commis d'actes de violence.
Voilà, donc Marine Le Pen, donc ce matin avec Jean-Michel Apathy, Guillaume Jubin, là on voit quand même, c'est une autre forme de violence, de terrorisme. Est-ce que c'est une vraie menace d'après vous? C'est circoncis, véritablement
La société française est plus fracturée qu'on ne le pense, et là on découvre qu'il y a des foyers de violence à certains endroits. Alors on parle de terrorisme là, on se rappelle de ce qui s'est passé à Notre-Dame-des-Landes, on voit qu'il y a quand même des foyers de violence potentiels.
Même si Notre-Dame-des-Landes, ce n'est pas quand même
non,
là,
on n'est pas dans
on n'opérait pas quand même.
Non, je suis d'accord avec vous, mais on parle là de sujets de violence générale dans la société. Ouais. Alors évidemment, on va au paroxysme, si on peut dire, puisqu'on parle, mais on a très peu d'informations à ce stade. Là, en l'occurrence, vous venez de dire dans le journal qu'il y avait une bombe qui avait été trouvée. Pour l'instant, on avait peu d'éléments qui laissaient penser quoi que ce soit sur ce groupe-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la société est plus fragmentée qu'elle en a l'air, et qu'il y a des foyers de violence au sein de la société française. La deuxième chose, c'est, j'ai envie de dire, pourquoi finalement on sort cette information aujourd'hui et pourquoi c'est dévoilé. On voit souvent que quand il y a des arrestations de groupuscules terroristes, on le sait longtemps après. Il semble que là, on l'a su tout de suite. Il y a peut-être un message aussi qui est envoyé pour montrer que la situation en France est justement une société beaucoup plus fracturée, qu'il y a des dangers potentiels, et on remet quelque part au centre du débat le sujet du terrorisme, mais qui va au-delà de la question du terrorisme religieux ou radical.
Et Stéphane Bernet, sur ce terrorisme-là, enfin sur ces personnes-là, donc qui s'apprêtaient à commettre donc un attentat ciblant des musulmans, donc ce milieu de l'ultra-droite qui avait déjà été visé. Hein,
ouais, alors pour l'instant, on sait peu de choses, donc je pense qu'il faut aussi attendre que le temps l'enquête aille au bout, que le temps judiciaire soit ouvert. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que ça montre que nos services de renseignement font bien leur boulot. C'est-à-dire que c'est le premier enseignement. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la capacité en France à déjouer des attentats, de quelque nature qu'ils soient. Et ça veut dire que leur spectre est large et qu'ils surveillent les gens qui sont à surveiller.
Mmh. C'est ça le message qui était passé aujourd'hui, finalement.
Oui, il faut s'en féliciter. Ouais. Après, est-ce qu'il y a une montée du risque d'extrême droite, etc. Je trouve que quand vous regardez le nombre d'affaires qui seraient liés à des groupes plusculés d'extrême droite. Il y a le groupe qui a été démantelé l'année dernière,
ouais, ça,
qui
octobre,
visait Castaner et Mélenchon. Il y a eu le type qui avait tiré sur Chirac le jour du 14 juillet.
Qui
était. Mais quand vous regardez dans le temps, il y a quand même très très peu de groupes dits d'extrême droite qui sont vraiment liés à des actes ou qui sont suspectés de commettre des actes terroristes. Je pense que leur nombre est très restreint.
Et Caroline Carré.
Bon, on ne va pas remonter effectivement aux années 60 avec l'OAS, on est d'accord.
Non, mais justement, on est vraiment dans une autre période.
Mais quand même, la DGSI, depuis plusieurs années, essaie d'attirer l'attention à la fois et des gouvernements successifs, puisque quand même il y en a deux en l'espace de 5 ans, notamment depuis l'attentat qui a... Enfin, pas, comment dire... Mohamed Merah dans l'école et qui a assassiné plusieurs militaires. Donc, ce qui a sensibilisé aussi les militaires. Et la DGSI aussi a essayé d'attirer l'attention, justement, des différents corps militaires, parce qu'il y a une forme de radicalisation de quelques personnes issues des corps armés, notamment d'anciens militaires qui sont revenus d'Afghanistan, qui peuvent être dans des situations un peu difficiles.
Là, vous pensez qu'il y en a, là ?
Pardon ?
Vous pensez qu'il y en a, là ?
En tout cas, d'après les informations
que nous dit
les
policiers,
anciens gendarmes, policiers,
etc. Donc vraiment, on est du côté il y a ça, et il y a certainement la tentation dans une petite minorité, mais elle peut être dangereuse, de vouloir réagir face aux attentats que nous avons connus. Voilà, tout simplement. Enfin, c'est clair que, et donc ça, pour le coup, effectivement, la DGSI fait son travail et avec cette interpellation et cette médiatisation, c'est aussi, en effet, je pense, un signal qui est envoyé à certains qui voudraient.
Une chose, est-ce que ça montre aussi les fractures, comme le disait Guillaume Jubin, la société française aujourd'hui, qui sont toujours présentes et quel que soit le camp, aujourd'hui, on parle d'ultra-droite.
Oui, oui, bien sûr. Non, mais tout à fait. Ça, c'est incontestable. Vous avez raison.
Sur ce discours et discours identitaire. Bah,
c'est un discours qui est également très utile au ministre de l'Intérieur, parce que ça l'exonère d'aller toujours dans le même sens, d'aller toujours chercher du terrorisme islamiste, etc. De temps en temps, il peut parler
de terrorisme, mais pas bon.
Enfin, on l'a pas inventé.
Non.
Là, c'est pas l'affaire Tarmac.
Ce que je veux dire, c'est que là-dessus, Stéphane Vernet a dit ce qu'il fallait dire en disant bon, on a des services de police qui sont capables de trouver, de déjouer les attentats terroristes, de quelque source qu'ils soient. Il faut dire quand même que cela paraît être de sacrés pieds nickelés.
J'espère. En tout cas, dans un instant, on parlera d'une autre enquête préliminaire, cette fois-ci concernant Emmanuel Macron, et on reviendra bien sûr sur sa visite au Vatican. On est très en retard. Là, c'est la suite des informés de France Info.
La première fois qu'on lui a proposé le badge télépéage Vinci Autoroute, Vincent a dit « Ah ça non, trop peu pour moi, je n'aime pas m'engager, puis je prends pas l'autoroute assez régulièrement. » Ce à quoi on lui a répondu « Avec le badge Vinci Autoroute et la formule temps libre, c'est sans engagement et les mois où vous ne roulez pas, eh bien, vous ne payez pas. Et quand vous payez, le paiement est différé jusqu'à 45 jours. » Alors Vincent a eu cette phrase historique, il a dit « Si c'est comme ça, je veux bien. »
Vinci Autoroute, roulons autrement. Disponible en espace client sur vinciautoroute.com. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Elodie Calac.
Soleil et température en hausse pour demain. Le matin, il fera 10 à 20 degrés avec 11 degrés à Nancy, 15 à Brest et à Lyon, 16 à Paris, 18 pour Cognac et Montpellier, 16 à 20 degrés autour de la Méditerranée. L'après-midi, on n'aura pas moins de 23 degrés à Cherbourg, 27 à Mulhouse, 28 degrés à Paris, 29 pour Tours, Nevers, Lyon, Toulon. Il fera 31 degrés à Limoges, 32 à Bordeaux et 33 à Montauban. Tout ça sous le soleil, du soleil pour tout le monde. Quelques nuages bourgeonnent tout de même en montagne avec une averse possible sur les Alpes et la montagne Corse. Pour la suite de la semaine, du soleil, des températures en hausse jusqu'au week-end. Les maximales pourraient même atteindre les 35 degrés dans le sud-ouest et le centre-est.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. L'Uruguay qui finit en tête du groupe A en battant 3-0 la Russie, qui termine à 10 et deuxième ce soir dans un match entre deux équipes déjà qualifiées. C'était à Samara en fin d'après-midi. L'Arabie Saoudite, elle termine sa Coupe du Monde par une victoire face à l'Égypte 2-1. À suivre en ce moment, l'Espagne contre le Maroc et l'Iran contre le Portugal. L'Espagne avec ce duel à distance face au Portugal, pourrait-on dire. Jacques Vendrouet, pour l'instant le score est ouvert. Espagne-Maroc, c'est un partout, hein.
Oui, vous l'avez dit, Iran-Portugal, d'abord, pour le moment, 0-0, après 30 minutes de jeu dans cette rencontre. 30 minutes également entre le Maroc et l'Espagne. Les Marocains ont ouvert le score par Boutaïb à la 15e minute et Isco à la 19e minute. L'Espagnol a égalisé pour le compte de l'équipe espagnole. Alors, ce qui est important, c'est la suite, pour le moment, qualifiée pour les 8e de finale. Premier, l'Espagne, 5 points. Deuxième, le Portugal, 5 points. Et troisième, l'Iran 4 points, le Maroc a 1 point, mais vous le savez, est d'ores et déjà éliminé depuis le tour précédent. Donc actuellement, seraient qualifiés en première place les Espagnols et en deuxième place, c'est important pour l'adversaire, l'équipe du Portugal.
Un mot de football encore, merci Jacques. Mathieu Debuchy, prolongé de 3 ans à l'AS Saint-Etienne, l'arrière droit, était en fin de contrat avec les Verts. Le groupe Solocal, l'ex-passe jaune, prévoit de supprimer 1000 postes sur 4500 d'ici à l'an prochain. Le groupe a signé des accords avec 4 syndicats pour encadrer cette réorganisation via des congés de mobilité, un plan social et des mesures pour les salariés qui seraient proches de la retraite. Cette fusillade en pleine rue à Montpellier, dans un quartier périphérique, le quartier de Payade, ce midi, un règlement de compte sur fond de trafic de drogue. 4 hommes ont été blessés par balle et à coups de couteau. Le pronostic vital de l'une des victimes est engagé. D'après le syndicat de policiers Alliance, depuis plusieurs semaines, la tension entre ces bandes rivales ne cesse de croître à Montpellier. Une grande concertation en vue de réformer l'organisation de l'islam en France aura lieu dans chaque département d'ici à mi-septembre, annonce ce soir de Gérard Collomb. Il s'agit, précise le ministre de l'Intérieur, d'améliorer la représentation de la deuxième religion de France, le financement de ces lieux de culte ainsi que la formation des imams et des aumôniers. Et puis en Turquie, le principal rival de Recep Erdogan accepte sa défaite. Muharrem İnce, qui exhorte le chef de l'État, réélu hier pour un mandat au pouvoir renforcé, bien à être le président de tous les Turcs. Erdogan, qui est au pouvoir depuis déjà 15 ans en Turquie, et alors que les observateurs internationaux de l'OSCE dénoncent l'absence d'opportunités égales pour les candidats au scrutin d'hier. Il avait dénoncé par son travail le système d'apartheid dans son pays. Le photographe sud-africain David Goldblatt est décédé ce matin. Il est mort dans son sommeil. Il avait précisément 87 ans. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et pour eux ce soir, ça sera un sandwich harissa tomate actualité avec un supplément informé pour que ça tienne bien au corps. Et ce soir autour de la table, nous trouvons le communicant Guillaume Jubin, l'avocate Caroline Mécari, Stéphane Vernet de Ouest France et François Lorcival de Valeurs Actuelles. Juste une question sur cette nouvelle enquête qui vient de s'ouvrir, puisque cette campagne présidentielle qui n'en finit plus, maintenant ce sont les comptes de campagne, et maintenant c'est une enquête préliminaire qui a été ouverte aujourd'hui après une plainte d'élus de droite dénonçant le rôle joué par la ville de Lyon et la métropole de Lyon en faveur de la campagne électorale d'Emmanuel Macron. Selon leur plainte, des moyens publics, c'est-à-dire humains, matériels et financiers sous le contrôle de la ville et de la métropole de Lyon, que dirigeait, tiens, qui ça? Eh bien le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, avant d'entrer au gouvernement, aurait été indûment détourné et mis à disposition du futur président de la République pendant la campagne. Stéphane Vernet, est-ce que c'est embêtant?
Macron, oui, c'est ça. Très
embêtant. Véritablement, là, on est dans quelque chose de...
C'est le deuxième épisode. Souvenez-vous, ça avait démarré avec le fait des rabais excessifs, etc. Donc, ça posait problème, mais il y avait bataille, il y avait match sur le sujet, sur oui, mais est-ce que ces rabais sont excessifs ou est-ce qu'ils sont normaux? Et donc, dans le contexte, tout ça a été discuté. Maintenant, si c'est une collectivité locale, donc, qui accorde des avantages en nature, c'est un vrai très gros problème. Ça peut aller assez loin.
C'est interdit par le code électoral. Voilà.
Alors jusqu'où ça peut aller, je ne sais pas. Ça, il faudra voir. C'est pareil. Il faudra voir ce que donnera l'enquête. C'est toujours pareil. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on ouvre une enquête qu'on va bien forcément sûr aboutir à une destitution du président. On n'en est pas là. Oui, c'est embêtant. Ce que j'ai pas bien compris moi personnellement, c'est que les avantages qui seraient reprochés au départ, donc fourni à Lyon, daterait d'un moment où Emmanuel Macron lui-même n'était pas encore officiellement candidat.
Guillaume Jubin,
moi je crois pas que ce soit un très très gros problème. Je veux dire par là que...
Bah quand même.
Non mais pour l'instant c'est une enquête qui est ouverte à la demande de l'opposition, c'est quasiment de bonne guerre, et tant qu'il y a des campagnes électorales, il y a des suspicions sur les comptes de campagne, c'est quand même une tradition en France. Donc finalement, je crois pas que ça porte beaucoup préjudice. Emmanuel Macron parle de rabais. Enfin, on n'est pas non plus dans une histoire qui semble pour être sur votre créneau, on va dire, qui prend dans les médias. On voit bien que c'est un sujet. Bon, il va peut-être y avoir un doute sur savoir s'il n'y a pas eu quelques rabais qui ont été accordés un peu.
Mais là, on n'est plus dans les rabais.
On est véritablement dans une. Aujourd'hui, on contredit le code électoral. C'est-à-dire, normalement, le code électoral prévoit qu'il ne peut pas y avoir d'une aide matérielle.
De toute façon, la justice va se prononcer. On va bien voir. Je pense que les Français ont un peu soupé de ces histoires-là sur les campagnes électorales et je ne crois pas que ça va vraiment être un gros problème pour lui.
Oui, voilà. Mais de nouveau, François Social, on est là, c'est vrai que ce sont des comptes qui ont été validés. On est encore sur quelque chose, une interrogation autour de la commission des comptes de campagne quand même.
Ah oui, bien sûr. Non, il y en a un déjà qui doit être rassuré, c'est Jean-Luc Mélenchon, parce qu'il n'y a pas de complot contre lui. S'il y a un complot contre lui, il y en a un contre Macron. Bon, maintenant, la justice va se prononcer. Ah non, alors là, franchement, nous sommes en politique, là. C'est-à-dire, il y a une enquête préliminaire. Je vous signale que l'affaire Fillon, vous n'avez toujours rien. Vous n'avez toujours rien.
Non, c'est vrai qu'il n'y aura toujours rien pour Emmanuel Macron dans deux ans.
La justice devait se prononcer, disions-nous, il y a un
an. Mais il y a des juges d'instruction qui ont été désignés. Donc voilà, il y a des auditions à faire. Oui, mais ça prend du temps.
Ça prend d'autant plus de temps quand on fait de la politique. Et donc là, nous sommes en train de commenter un début de quelque chose. On verra bien. Mais c'est tout ce qu'on peut faire aujourd'hui. Je ne pense pas que ça fasse grand peur au président de la République.
On voit bien tout de même qu'il y a un mécanisme.
Il y a des affaires chez lui qui, à un moment donné, ont été plus dangereuses, me semble-t-il.
Par exemple, lesquelles ?
Eh bien, écoutez, l'affaire de son compte que gérait Mme Pénicaud, c'est-à-dire de cette opération.
Las Vegas, oui, d'accord, oui, tout à fait. Voilà. Caroline Mécari, là, ça pose aussi, à chaque fois, on se pose cette question. C'était une enquête France Info quand on a révélé ça. C'est sur, quel que soit, alors aujourd'hui, il y a Emmanuel Macron. Avant, vous en parliez, c'était Jean-Luc Mélenchon. On a parlé de Benoît Hamon aussi. Il y a un problème avec la commission des comptes de campagne, tout de même. Parce que tous ces comptes sont validés aujourd'hui. Et c'est le problème, c'est pourquoi on a du mal à revenir dessus.
Oui, mais enfin, là, moi, il m'a semblé, enfin, si j'ai bien compris, en fait, l'enquête préliminaire, elle porte sur des avantages indus qui auraient été conférés par, on va dire, la ville de Lyon, gérée par
Gérard Collomb,
vis-à-vis du candidat. Là, c'est pas, enfin, je crois pas que ça rentre dans les comptes de campagne. Oui. Ça, je pense que c'est autre. Enfin, ça me paraît être autre chose. Oui. Donc, on peut pas le mettre sur un même plan.
Et pour vous, on est quand même dans une histoire, c'est-à-dire que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire quand on est candidat ou alors apprenti candidat, il faut quand même aussi, il y a un problème avec l'argent et les campagnes électorales tout de même. Ou les moyens humains, il y a un moment où il faut toujours s'arranger.
Je ne sais pas s'il y a un problème avec les campagnes électorales et leur financement. Ça fait à peu près maintenant, depuis les années 90, qu'on essaye de faire en sorte que le financement des campagnes électorales se fasse de la manière la plus transparente possible, encadré par des réglementations. Bon, il y a toujours des nouvelles choses. Il est possible que dans ce cas-là, et tout le monde sait que je ne suis pas macronienne, qu'il y ait aussi une instrumentalisation politique par l'opposition de Gérard Collomb, puisque la plainte a été déposée par les Républicains. C'est très difficile de se prononcer, très sincèrement.
Bien sûr.
Il appartient vraiment au parquet de. Et je pense que si l'enquête préliminaire a été initiée, enfin, c'est-à-dire que voilà, on ouvre, on enquête, on regarde, on vérifie. Pour blanchir ou pas blanchir, j'en sais rien, mais voilà.
C'est vrai qu'on est toujours quand même dans ces histoires aussi de campagne électorale. Il y a un moment, en effet, depuis les années 90, on cherche comment faire. Il y a des lois. On a beaucoup réfléchi dessus. On voit quand même que, quelle que soit la campagne.
Le sujet revient toujours. Et puis, ça reste quand même toujours une affaire qu'on peut aller chercher chez son opposant. C'est-à-dire qu'on peut toujours aller mettre en cause son opposant sur ce sujet-là. Il y a toujours un angle qui va fonctionner.
En tout cas, on aura l'occasion de voir comment ça évolue, donc, cette affaire. Allez, dans un instant, nous, on va partir l'autre côté des Alpes, à Rome et non, même dans la cité du Vatican. C'est incroyable, que de voyage ce soir. L'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Le chef de file du réseau proche de l'ultra-droite, démantelé ce week-end, a milité au Front National en Charente-Maritime. C'est une information de France Bleu La Rochelle. La garde à vue des 10 suspects est prolongée ce soir. Un laboratoire clandestin permettant de fabriquer des explosifs a été retrouvé au domicile de l'un d'entre eux. Ces personnes avaient fait des repérages auprès de plusieurs mosquées en France. Matteo Salvini reste ferme. Le Lifeline et ses 230 migrants n'iront pas en Italie. La France pense le contraire. C'est à l'Italie de le prendre en charge, selon la ministre des Affaires européennes, Nathalie Loiseau. Salvini, ministre italien de l'Intérieur, lui renvoie sèchement qu'elle est ignorante. Il n'y a plus de contre-pourvoir en Turquie, l'analyse sur France Info du politologue Ahmet İnsel. Plus de contestations significatives possibles, selon lui, maintenant que Recep Tayyip Erdogan a été réélu dès le premier tour de la présidentielle hier soir. Il règne sur la Turquie depuis maintenant 15 ans. La levée de l'embargo sur le bœuf français en Chine, il était en place depuis 17 ans. Après la crise de la vache folle, au quatrième jour de sa visite en Chine, Édouard Philippe salue la fin de cette interdiction. Les premières exportations françaises pourraient avoir lieu dès septembre. Et puis le loup est en expansion rapide en France avec 430 bêtes recensées par l'Office de la chasse et de la faune sauvage. Le plan loup table sur la présence de 500 canidés en France à l'horizon 2023 et toujours cette opposition des éleveurs qui dénonce de nombreuses attaques de troupeaux.
France Info.
20h, 21h, les informés. Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, pour son voyage à Rome, Emmanuel Macron a le choix, hein, soit cracote le poney ou Kiro de l'amoureur, les talons andalous. Parce qu'en effet, en allant chercher le titre honorifique de chanoine de Latran, la tradition lui donne le droit de rentrer à cheval dans la basilique Saint-Jean de Latran. Alors, étrangement, le président de la République ne le fera pas au risque de déplaire à la filière équine française, sûrement une prochaine polémique à venir. Demain, Emmanuel Macron se rend donc au Vatican où les sujets de discussion avec le pape François ne manqueront pas, notamment sur les migrants ou le réchauffement climatique. Une visite qui intervient après son discours du mois d'avril à la conférence des évêques de France où Emmanuel Macron avait déclaré vouloir réparer le lien entre l'Église et l'État qui, selon lui, se serait abîmé. Alors, comment ça se passe un président de la République française au Vatican? Eh ben, petit florilège, justement, de nos chers édiles en goguette de l'autre côté des Alpes avec François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et François Hollande.
Les intérêts et les problèmes de l'Église sont mêlés à l'histoire de la France, notamment au travers des problèmes de l'enseignement.
La laïcité n'a pas le pouvoir de couper la France de ses racines chrétiennes. L'instituteur ne pourra jamais remplacer le pasteur ou le curé.
S'il y a un mot, une valeur qui nous a rassemblés, c'est le mot de dignité.
Voilà, donc François Mitterrand, Nicolas Sarkozy, François Hollande, chanoine de Latran, donc c'est une tradition hein, qui remonte à Henri IV, sous la Ve République, Georges Pompidou, François Mitterrand et François Hollande avaient refusé ce titre. Guillaume Jubin, c'est Emmanuel Macron, lui, il le prend au risque. Alors, on le voit dans une sorte de suite de son discours, enfin, dès le début, hein, il a dit qu'il allait le prendre. C'est important pour lui, ce geste
Déjà, il s'inscrit dans une tradition française, les chefs d'État qui vont au Vatican, c'est pas une exception.
Ah non, bien sûr.
Donc en ça, il est vraiment dans la tradition française. Effectivement, il prend ce titre honorifique, mais il est aussi dans cette image de présidentielle dans laquelle il prend, j'allais dire, tous les attributs du président qui lui sont accordés dans l'ensemble de son rôle. Donc ça, il le fait. Ce qui est intéressant, c'est la séquence, on va dire, de communication dans laquelle ça s'inscrit en ce moment, puisqu'on a bien vu qu'il envoyait des messages très différents, un peu selon les semaines et selon les jours, à différentes catégories de la population française, sur différents sujets. Donc c'est peut-être ça qui est un peu le plus étonnant, c'est-à-dire que ça vient dans une séquence de communication dans laquelle il était plutôt orienté vers une orientation un peu plus sociale, grand public, un peu moins, on va dire, sur ce sujet de la religion dans la société.
Bon, on verra en tout cas si le pape l'appelle Manu, on ne sait pas, on verra comment il se comporte. Caroline Mécari, c'est vrai que il y a eu récemment là avec dans la conférence des évêques de France cette fameuse phrase d'Emmanuel Macron que le lien entre l'Église et l'État s'était abîmé, il faut le réparer ce lien. Ça avait étonné hein, beaucoup de gens, même au sein de son propre parti. Pourquoi il fait ça, à votre avis, Emmanuel Macron?
Moi, je pense tout simplement qu'en fait, Emmanuel Macron essaye de, j'allais dire, de récupérer, voilà, c'est ça, de récupérer un électorat catholique. Parce oui. qu'en disant ce qu'il a dit à la conférence des Bernardins en avril, c'était aussi une manière de reconnaître la place des catholiques en France. Mais il a été bien plus loin, c'est-à-dire qu'il a aussi invité les catholiques à investir d'une certaine manière le champ politique. Donc là, je pense qu'il est vraiment dans cette continuité-là. Ce qui est dommage, c'est que ça donne le sentiment d'un déséquilibre par rapport à d'autres religions, parce qu'il n'a pas du tout le même discours vis-à-vis d'autres confessions. Et donc, moi, je pense que de ce point de vue-là, c'est un petit peu problématique. Donc, je pense qu'il est tout à fait dans un calcul politique. Ramener à lui les brebis catholiques.
Moi, je crois que, bien sûr.
Il est baptisé, Emmanuel Macron, je précise. Hein, c'est lui qui a fait un choix.
Il s'inscrit dans ce que disait dans votre extrait François Mitterrand. En 1982, c'est-à-dire c'est l'histoire. Et chez Emmanuel Macron, l'histoire, il la rappelle toujours dans ses prises de position. Même à propos des migrants. L'histoire nous dicte, etc. Or, effectivement, il ne prononcera pas au Latran un discours comme Nicolas Sarkozy l'avait fait, précisément parce qu'il s'est exprimé au Bernardin. Et c'est ce lien qu'il perpétue. Maintenant, il faut regarder également les sujets qu'il va traiter. Les sujets qu'il va traiter avec le pape sont évidemment intéressants. Ils vont se voir quand même 40 minutes.
Oui, c'est ça. Ouais.
Il est accompagné par un grand spécialiste de l'islam qui est Rémi Brague. Il est accompagné par son conseiller diplomatique et bien entendu aussi par le ministre des cultes, qui n'est autre que Gérard Collomb. Dont on a parlé il y a un instant, et par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Et donc, je pense que la séquence actuelle, vous vous disiez sociale, etc. Non, la séquence actuelle, c'est les migrants. Et on sait très bien ce que sont les positions du pape dans ce domaine.
Voilà, lui, pour davantage avec Caroline
Mécari. Vous avez aussi le sujet des chrétiens d'Orient.
Aussi, si, ah, voilà, bien sûr. Bien sûr. Et ça. Que la France protège autant qu'elle le peut, en particulier alors, au Liban.
Stéphane Vernet.
Si peu. Elle est partie du Liban en 1982.
Alors, c'est important toujours cette visite au Vatican, parce qu'on voit, il y a un côté en effet religieux, et c'est normal puisque c'est le pape, mais le Vatican, on le sait bien, joue aussi un rôle voilà, dans différents conflits. C'est quand même toujours important pour la France, un président français, de rencontrer le pape.
Mais bien sûr, c'est le plus petit état du monde, mais c'est sans doute un des plus influents, tout simplement en regardant le nombre de catholiques à travers et de chrétiens à travers le monde, pardon. Donc ça a une importance fondamentale, oui, je pense, parce que là on est dans de la diplomatie et le côté un peu polémique autour de cette visite, moi je trouve ça complètement ridicule. C'est-à-dire que oui, ça s'inscrit dans une grande tradition française. C'est un président qui a un sens de l'histoire très important, très très marqué. Donc moi je suis pas du tout étonné qu'il accepte d'y aller.
Il refuse la charge de chanoine de Latran.
Mais oui, et puis c'est pas le premier. Enfin, faut arrêter avec
ça. Henri IV l'avait pris.
Il y en a eu d'autres depuis. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que s'il refuse de, si effectivement il prononcera pas de discours, c'est qu'il y a eu le fâcheux précédent de Nicolas Sarkozy sur la petite phrase que vous avez montrée entre la comparaison entre l'institut et le curé et le pasteur, ça s'était pas passé du tout. Donc voilà, mais le fait de rencontrer le pape, d'avoir un échange avec lui, et ils vont parler des migrants, évidemment, donc ils seront en plein dans l'actualité, moi je pense que c'est important. Et sur le fait qu'Emmanuel Macron drague l'électorat de droite, oui, je suis complètement d'accord avec ça, mais je suis pas sûr qu'il cherche à le faire aussi à travers ses actions ou ses discours vis-à-vis des religions et de la religion
catholique.
Quand
même, son discours Bernardin, c'était pas forcément droite, c'était l'électorat catholique, véritablement. C'était,
ouais, mais voilà, c'est une vision de la laïcité qui réaffirme. Et qui
parce qu'on l'a toujours pas
eu. On n'a pas eu de discours à l'égard de l'islam du tout. Il n'y a pas d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. Je suis désolée, il n'y a pas d'équilibre.
Vous ne rappelez pas les discours qu'il a prononcés au mois de décembre. Décembre.
À quel propos
plus personne ne se souvient d'un discours. À propos de l'islam de France. Et ensuite, les discours qu'il a prononcés devant la communauté juive.
Il n'y a toujours pas un discours, bien sûr, mais il n'y a toujours pas un discours sur la laïcité en tant que tel.
Il ne parle pas aux autres. Mais si.
Il ne leur dit pas la même chose.
Et vous ne rappelez pas le discours qu'il a prononcé au mois de septembre aux protestants, à la Fédération protestante de France.
Donc finalement, il choisit, mais il ne fait pas un discours global.
Il y a autre chose.
Mais donc finalement, il sert aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre, donc selon les communautés.
C'est une surprise, ça. Non. Il y a un point dont on n'a pas parlé, parce que c'est une différence avec François Mitterrand. François Mitterrand, il était au moment du mariage pour tous, etc. Lui...
François Mitterrand,
François Hollande.
Les François se mélangent. François Hollande y était à ce moment-là.
Alors, ce qu'on va faire, on va justement, François, il y a beaucoup de François, en fait, finalement, ce soir. On va continuer à en parler dans un instant, parce qu'en attendant, nous, on rejoint Moscou, Jacques Vendroux, cette fois-ci pour l'autre match qui oppose l'Iran au Portugal. Et il y a un but, Jacques.
Oui, le Portugal vient à l'instant d'ouvrir le score, c'est la mi-temps, par Quaresma à la 44e minute. Donc le Portugal mène devant l'Iran 1-0. Et dans l'autre match, eh bien le Maroc et l'équipe d'Espagne sont à égalité 1-1. Donc le classement, il est important pour les huitièmes de finale. Premier le Portugal avec 7 points, deuxième l'Espagne 5 points. Donc au moment où on vous parle, le Portugal et l'Espagne qualifiés à la mi-temps pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde de football. La 21e.
Voilà, on respecte presque la logique tout de même. Espagne-Portugal qualifié, on respecte une certaine logique. Allez, l'info à 20h50, Stéphane Milhomme.
Emmanuel Macron a-t-il bénéficié davantage de collectivités locales lyonnaises pour sa campagne présidentielle? Le parquet de Lyon ouvre une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics, financement irrégulier d'une campagne électorale, abus de biens sociaux et recel. La justice soupçonne Gérard Collomb, à l'époque maire de Lyon et président de la métropole lyonnaise, d'avoir accordé des avantages pendant la campagne présidentielle. Les personnes qu'il prostituait étaient parfois des collégiennes. 12 hommes sont jugés dès aujourd'hui pour proxénétisme par le tribunal correctionnel de Paris. 11 des 16 jeunes filles étaient donc mineures au moment des faits. Ce genre d'affaires se multiplie depuis ces dernières années, avec par exemple 71 enquêtes en cours pour la seule année 2017 selon la police judiciaire de Paris. En un mois, les inondations en France ont causé 430 millions d'euros de dégâts. Ce nombre est annoncé par la Fédération française de l'assurance. Ses responsables confirment ces intempéries entre le 25 mai et le 14 juin se sont caractérisées par leur durée, leur étendue géographique et la diversité des dégâts. Et puis, par ses photos noires et blancs, David Goldblatt dénonçait l'apartheid. Le grand photographe sud-africain est mort la nuit dernière à Johannesburg. Il était âgé de 87 ans.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, un président au Vatican. Alors ça fait un peu film de série B des années 70 dit comme ça, mais demain ça sera le cas, hein, puisque Emmanuel Macron rencontrera le pape François pour une audience privée de 30 à 40 minutes. Et il recevra également la charge de chanoine de Latran. François Orcival, je vous ai coupé tout à l'heure parce que vous disiez que François Hollande, c'était pas du tout le même contexte, puisque Absolument. Lui s'était rendu sur place au Vatican pendant le mariage pour tous.
Pendant toute la polémique, les manifestations et le vote de la loi sur le mariage pour tous. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout le même contexte. En revanche, il y a quand même un sujet de société, c'est la loi de bioéthique.
C'est ça.
Et je pense que le pape, dans ce domaine, a des choses à lui dire aussi.
Oui, Caroline Mécari, on se souvient justement des propos d'Emmanuel Macron sur la manif pour tous, où les catholiques, où il y avait beaucoup de catholiques qui avaient manifesté, et lui, pendant la campagne, avait évoqué finalement qu'on avait maltraité finalement ces manifestants, qu'il y avait une sorte d'humiliation.
Oui, enfin, voilà, leurs propos. Je veux dire, c'était le monde à l'envers. Hein. Je pense que c'est les 3,5 millions de lesbiennes, de gays, de transsexuels et de bi qui ont été insultés par ces gens qui, au fond, militaient dans la rue pour que les lesbiennes et les gays n'aient pas les mêmes droits qu'eux, tout simplement. Donc, s'il y a bien des gens qui ont été humiliés, pour moi, ce sont les lesbiennes et les gays. Donc, après que Emmanuel Macron serve le discours qui fait plaisir, c'est bon, ok, c'est un homme politique, c'est un homme politique, voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça pour moi, voilà. Mais remettons les choses à leur place, et l'église au milieu du village, justement, ce sont les lesbiennes et les gays qui ont été humiliés par les manifestants de la Manif pour tous. Voilà. Et d'ailleurs, vous aurez noté que la France ne s'est pas écroulée, hein, le mariage pour tous a été... Voilà, tout va bien, et les couples peuvent adopter, tout va bien.
Finalement, les humiliés sont des deux côtés.
Voilà, bon, bah, c'est formidable. Mais juste une chose, est-ce que vous pensez que, là, on parlait de la PMA, aujourd'hui, on en discutait à l'Assemblée nationale.
Non, mais on connaît la position.
Voilà, cette fameuse position, voilà, qui serait de l'étendre, donc, justement, à toutes les femmes, aujourd'hui, est-ce que ça peut finalement déchirer, comme le craint peut-être Emmanuel Macron, un pays comme la Manif pour tous?
Non, je ne crois pas du tout. Je vais vous dire pourquoi. Oui. Parce que autant la question de l'ouverture du mariage civil, c'est quelque chose qui peut concerner absolument tous les citoyens et toutes les citoyennes. Autant la question de savoir si des femmes peuvent avoir accès à la procréation médicalement assistée, qui est déjà ouverte aux couples hétérosexuels, ça concerne vraiment une petite minorité. Et c'est pas parce que vous avez un collectif comme la Manif pour tous qui a des moyens et qui sait faire de la propagande autour de cette thématique que des milliers et des centaines de milliers de gens vont descendre dans la rue. Je n'y crois pas une seule seconde. Surtout que la France est en retard par rapport aux pays européens. Ouais. Il y a 14 pays en Europe qui ont déjà ouvert la PMA aux couples de femmes et 26 qui l'ont ouvert aux femmes célibataires. Donc on est vraiment très à la traîne.
Guillaume Chubin.
Ouais, je crois qu'Emmanuel Macron, il est très sensible et attentif aux fractures qu'il y a dans la société française. C'est pourquoi les grands sujets de société, il choisit de les aborder non pas de façon générale et avec tous les Français, mais avec les communautés qui sont concernées. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas, je pense, rajouter, ou en tous les cas, surajouter à ces fractures. C'est pour ça qu'il va s'exprimer sûrement en direction des catholiques quand il va aller au Vatican, et il y aura forcément une polémique à l'issue de cette
ben voilà, c'est bien, on les prévoit déjà. Stéphane Bernet, est-ce que le pape, aujourd'hui, on le voit, l'influence qu'il peut avoir ou pas sur certains dossiers ? Par exemple, quand il parle des migrants, quand il parle à quelqu'un comme Emmanuel Macron, est-ce qu'il peut avoir une influence, véritablement ?
Sur Emmanuel Macron, je ne sais pas, mais sur la communauté des croyants, oui, bien sûr, c'est le pape. Donc, c'est une parole qui porte, encore une fois, c'est ce que je disais
tout à l'heure. Oui, bien sûr, oui, oui.
Voilà, c'est quand même la première religion au monde, hein, en termes de nombre de fidèles, donc la chrétienté, donc ça a un poids. Il est écouté, et c'est aussi un pape qui a des positions assez modernes sur certaines questions, et sur son discours sur les migrants, effectivement,
il est évangiles.
Il est fort, ouais. Il est fort dans une Europe où justement là, tout le monde est en train d'adopter des circonvolus, enfin des pudeurs et des, enfin des, il est à contre-courant, donc c'est je pense que c'est cette parole-là, elle est non seulement elle est forte, mais elle est utile, elle est intéressante. Est-ce que ça va faire évoluer Emmanuel Macron sur ses positions? Non, je crois pas.
Mais surtout, il ne faut pas oublier que le pays gouverné par le pape se trouve au milieu de Rome. Donc c'est ça qui est assez
étonnant. Le pays le plus catholique d'Europe, c'est la Pologne. Et la Pologne, pour le moment, n'est pas sur les positions d'accueil.
Non, n'est peut-être pas sur la position du pape aussi. On sait bien que c'est un pape controversé.
Le pape. Mais comme tout pape, je veux dire, provoque des débats, des discussions. Il y en a qui sont plus rassembleurs que d'autres. Mais ce pape-là, à la fois dit, nous vivons une troisième guerre mondiale par fraction, par morceau, ce qu'il a dit, et puis d'autre part, on ne peut pas laisser les réfugiés comme ça, les mépriser, etc. Pourquoi le dit-il ? Et parce que précisément, il est le pape. C'est-à-dire qu'il a une mission sacerdotale à l'égard de ceux-là comme des autres.
En tout cas,
rappelez-vous ce qu'il avait fait le Vendredi Saint avec... Une personne auquel il avait baisé les pieds.
Allez, on aura bien sûr l'occasion d'y revenir demain, hein, puisque donc Emmanuel Macron, après avoir été président de la République, sera chanoine de Latran demain. Voilà, ça c'est chaque année un nouveau titre. On verra ce qu'il en est. Merci beaucoup Caroline Mecquart d'être passée ce soir aux Informés de France Info. Merci Guillaume Jubin.
Merci.
La Une de Ouest-France, Stéphane Vernet demain.
Ah, on a un sujet sur les bébés volés, le procès historique qui s'ouvre en Espagne.
François Orsival.
Eh ben nous, on sera sur le Conseil européen
de vendredi. Jeudi.
Et donc on sera très nettement sur les migrants et.
Très bien, il est temps pour nous de retrouver Jean-François Aquili. Bonsoir Jean-François.
Bonsoir Mathieu.
Au programme de Tout est politique.
Également la crise migratoire ce soir longuement. Nous aurons également une enquête Ipsos sur qu'est-ce qu'un vrai Français. Et nous évoquerons la bataille qui commence, celle de la révision constitutionnelle avec Gilles Legendre de La République En Marche, avec Nicolas Bay du Rassemblement National, avec Chloé Morin d'Ipsos et Jean-Jérôme Bertolus de France Info.
Mais bien sûr, voilà, faut jamais hésiter. Allez, Tout est politique, c'est dans quelques minutes sur France Info.